France Inter.
Il est 5h12, les chroniques littorales braquent les projecteurs sur un univers aussi fascinant qu'infiniment petit. Bonjour José-Manuel Lamarque.
Bonjour Mathilde Munoz.
Le plancton.
Puisqu'il existe une planète plancton, notre planète, l'océan est pourvu de 90% de la biomasse, mais existe-t-il une autre planète plancton? Eh bien, c'est l'objet, entre autres, de l'ouvrage de Vincent Doumézel, Le Manifeste du Plancton, paru le 28 mai dernier aux éditions des Équateurs. Et Vincent Doumézel, en lisant votre livre, on s'aperçoit que cela irait d'une planète à une autre planète. Alors là, faut m'expliquer.
En fait, déjà, le mot planète et plancton ont la même racine, ouais, et notre plancton dérive dans l'océan, comme notre planète dérive dans l'espace. Donc il y a quelque chose de commun entre les deux, et on est sur une planète plancton au niveau historique.
Nous
sommes sur une planète plancton. L'essentiel de l'histoire du vivant sur Terre, à 90%, c'est du plancton qui dérive dans l'océan. Donc se mouvoir, des cellules qui vont devenir mouvantes alors qu'elles n'ont pas de muscles, qu'elles n'ont pas de moyens de locomotion, qui vont permettre de se rencontrer et de créer quelque chose, un phénomène qu'on appelle l'évolution, puisqu'elles vont partager leurs gènes, partager leurs capacités, ces cellules, et créer l'évolution. Ça va même plus loin que ça. Récemment, j'ai visité un site à Barcelone de l'Agence Européenne Spatiale, qui utilise du plancton, des spirulines, pour emmener dans l'espace.
Quand vous nous parlez de spiruline qui est une microalgue, la spiruline fait partie du plancton.
Évidemment, voilà. C'est une cyanobactérie qui dérive, il y en a des millions, et chaque goutte d'eau est remplie de millions d'organismes planctoniques qu'on ne voit pas, elle est loin d'être vide.
Et donc à Barcelone ?
À Barcelone, cette agence utilise du plancton pour emmener dans l'espace. Alors pourquoi ? Parce que c'est assez magique, ces spirulines dans l'espace, elles vont déjà absorber le gaz carbonique, ce qui est une bonne chose, puisque quand vous respirez dans une navette spatiale, vous n'allez pas ouvrir la fenêtre pour évacuer le gaz carbonique. Donc elle va absorber le gaz carbonique pour en faire d'un côté de l'oxygène, que les astronautes pourront respirer, et de l'autre, une matière organique qui va être extrêmement nutritive. Donc on récupère le gaz carbonique pour en faire de l'oxygène et de la nourriture. Donc pour les astronautes, c'est évidemment très pratique. Oui. Et puis après, c'est extrêmement pratique aussi, puisque quand vous arrivez sur une autre planète à coloniser, ben vous n'allez pas emporter des arbres, vous allez plutôt emporter des bactéries, des cyanobactéries ultra résistantes, telles que la spiruline, qui vont pouvoir coloniser n'importe quel environnement. Et ça m'a rappelé quelque chose de visiter ce site. Ça m'a rappelé que l'océan, certaines parties de l'océan sont plus anciennes que notre système solaire.
Parce que l'océan, c'est 4 milliards d'années, hein.
Ces 4 milliards d'années, mais il est arrivé sans doute en partie, on connaît très mal, mais grâce à des météorites glacées qui venaient d'autres planètes.
Et puis les volcans qui entrent en éruption, voilà. Et les gouttes et toute cette, d'eau des et volcans,
toute cette, voilà. Voilà. Et toute cette chimie qui se met en place n'empêche qu'il est probable aujourd'hui que certaines bactéries initiales qui ont créé la vie sur Terre venaient peut-être d'une autre planète à travers ces météorites glacées qui ont traversé l'univers. Et c'est assez incroyable de se dire que finalement ces bactéries, elles sont arrivées il y a 4 milliards d'années sur Terre avec des météorites. Elles ont créé tout ce qu'on a sur la Terre. L'oxygène, l'ozone, les continents, les différences de température qui sont créées, le vivant, l'évolution, tous les êtres vivants qui existent, tout ça, ça dérive de ces bactéries planctoniques. Et on sait aujourd'hui que notre organisme, nous, êtres humains, il est composé de beaucoup plus de cellules bactériennes que de cellules humaines. Et donc, on est plus, en fait, un espèce d'organisme, un espèce d'exosquelette qui transporte un être bactérien. Et d'ailleurs, on commence notre vie comme le plancton, dans de l'eau, on a une flagelle comme les planctons. Enfin, on a plein de similitudes avec le plancton.
Quelque part, on est déjà des extraterrestres, quoi.
On est déjà des extraterrestres qui descendent d'être. Venant d'une autre planète, en effet, et de dire que ces organismes d'une autre planète, ils ont créé le vivant sur la Terre, elles ont créé un exosquelette, alors c'est un peu une digression, mais ça rejoint un peu, voilà, on est à la théorie, elles ont créé un exosquelette humain qui demain va les remporter dans l'univers pour aller coloniser d'autres planètes. Et ça rejoint un peu les théories de Lynn Margulis ou de James Lovelock qui a fait la théorie de Gaïa, l'hypothèse de Gaïa, qui disait que finalement on est sur une planète de bactéries. Et le grand dessin de notre planète nous échappe complètement, et c'est un dessin bactérien et de bactéries planctoniques qui ont dérivé dans l'océan pour créer le vivant et créer tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc je trouve ça assez fascinant, cette histoire, de se dire qu'on est peut-être descendant d'organismes qui viennent de l'espace et qui aujourd'hui n'aspirent qu'à une chose, c'est à y retourner pour coloniser d'autres mondes.
Et donc notre vecteur, c'est le plancton.
Voilà.
Merci Vincent Doumézel. Le Manifeste du Plancton est édité aux éditions des Équateurs. Et vous êtes aussi l'auteur, avec Étienne Lécroard, d'une BD, La Révolution des Algues, aux éditions Futuropolis. À demain, Mathilde Munoz.
À demain, José-Manuel Lamarque.